depuis 1991, quand Manmohan Singh, en tant que ministre de Finances du gouvernement indien de cette époque, qui était un gouvernement minoritaire, les premières mesures qu'il avait prises, c'était vraiment de déréglementer l'économie indienne. Donc, de donner la capacité aux entrepreneurs et aux capitalistes indiens d'agir librement, aussi bien sur le marché indien que sur le marché mondial. Et au fur et à mesure que les années ont passé, les gouvernements successifs ont essayé de donner aux entreprises indiennes, aussi bien les entreprises du secteur public que du secteur privé, les mains libres et l'autonomie pour agir sur les marchés mondiaux. Donc la déréglementation économique était la clé de la réussite indienne, assistée aussi bien évidemment par des réformes importantes dans le secteur bancaire et financier, et aussi une soif de réussite des classes moyennes indiennes qui étaient pendant trop longtemps dans une économie rigide, réglementée et contrôlée. Et cette soif de consommation est d'atteindre le niveau de vie des pays développés et ce qui motive aussi la réussite indienne.
Et cette régulation bancaire et financière dont vous avez parlé explique selon vous le fait que l'Inde soit beaucoup moins touchée par la crise aujourd'hui, contrairement à beaucoup de pays de l'Occident ?
Oui, c'est-à-dire le gouvernement indien et notamment le Reserve Bank of India, la banque centrale indienne, ont toujours été relativement conservateurs en matière fiscale et monétaire. Le gouvernement indien est conscient que pour sa crédibilité économique, il faut qu'il contrôle les déficits et les dettes. Il y a un effort toujours de prudence, ce qui fait que ce sont les bons signaux pour les investisseurs étrangers. Et il y a eu toujours une ouverture relativement contrôlée, graduelle, exactement comme la Chine. La convertibilité de la roupie est partielle. La roupie n'est pas sous-évaluée comme la monnaie chinoise. Ce qui reflète aussi, je pense, globalement, la bonne santé de l'économie indienne.
Vous avez évoqué la classe moyenne. Ces dernières années, on a vu l'émergence d'une classe moyenne et un enrichissement de cette classe moyenne en Inde. Cependant, l'Inde reste un des pays les plus inégalitaires.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire très clairement, et notamment sur le volet socio-économique de développement, l'Inde n'a pas vraiment réussi. C'est-à-dire son taux d'alphabétisation est très bas en comparaison avec la Chine. Les indicateurs de mortalité infantile, les indicateurs de nutrition sont très très mauvais pour presque la moitié de sa population. Mais le problème pour la réussite dans ce domaine n'est pas financière. L'Inde a largement les ressources aussi bien économiques que humaines pour réussir cela. Les blocages sont essentiellement d'ordre politique, des blocages de gouvernance, des blocages qui viennent de son système de caste et sa hétérogénéité sociale.
Dans quelques années, l'Inde sera la première puissance démographique de la planète. Elle aura dépassé la Chine. Comment les autorités indiennes se préparent justement à ce boom démographique, même s'il est déjà bien amorcé?
En effet, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le jargon technique appelle ça la dividende démographique. La dividende démographique est bien ou utile uniquement si l'Inde est capable de transformer ce dividende démographique dans une dividende en termes de qualité de ressources humaines. Si l'Inde ne développe pas très très rapidement le système d'éducation primaire, une qualité d'éducation dans le domaine secondaire et universitaire qui est de niveau mondial, cette dividende démographique va devenir un handicap très très lourd. C'est certainement lié aux carences de décentralisation parce que notamment l'éducation est ce qu'on appelle dans le domaine de compétences des États. Par contre, le problème de centraliser ou de centraliser un peu plus, cela pose le problème suivant. Les États indiens, les partis régionaux sont extrêmement jaloux de leur indépendance et de leur autonomie. Le progrès viendra du fait, je dirais, par la concurrence régionale. S'il y a des États qui réussissent mieux que d'autres, les États les plus pauvres ou les moins efficaces essayons de les poursuivre.